Adrien de Colas, je comprends le concept, mais au-delà, quel est le...
Oui, pardon, je comprends le concept pour vous décrire une situation. Effectivement, quand on met les 24 cours à côté, on se dit, voilà, il se passe quelque chose. Mais finalement, derrière, quel enseignement pour l'action? Parce que vous l'avez un petit peu évoqué quand vous dites, voilà, il y a la permaculture, ça peut être une solution qui... Bon, c'est vrai que depuis que l'homme est sur Terre, il y a quand même une tendance dominante à essayer de domestiquer la nature. Donc on est finalement dans ce mouvement qui est lié à l'humanité. Donc c'est une erreur peut-être qu'il y a des hommes sur Terre, mais n'empêche qu'on est là. Et ça, ce qui me gêne un petit peu, c'est que ça, sauf qu'on parle un peu de technofantasie, mais la courbe montre que c'est plutôt une voie utopique, en tout cas pas souhaitable. Alors qu'il y a quand même toujours une capacité humaine à s'adapter. Donc vous avez parlé de la permaculture. Quand vous parlez des couches géologiques et des déchets plastiques, ben le landfill mining, c'est pas un concept nouveau. Hein. C'est depuis les années 50 qu'on envisage de réouvrir des centres de fouissement des déchets pour en extraire des déchets qu'à une époque on n'était pas capable de trier et qu'on est capable de trier aujourd'hui. Il y a le concept d'urban mining qui se développe aussi, c'est-à-dire à la source finalement ce qui n'est pas exploitable pour éviter que ce soit... Enfin, bref, donc il y a des tas de mécanismes qui se mettent en place qui finalement viennent quand même un petit peu adapter. Donc finalement on en fait quoi de ce concept à part décrire, qu'est-ce qu'on en fait pour l'action?
Réponse et puis la question suivante se prépare. C'est vous ?
Pour moi, écrire, c'est un préalable à l'action. Enfin, décrire, prendre la mesure, c'est un préalable à l'action. Qu'est-ce qu'on en fait? Mais on est embêté parce qu'on est en effet captif de la trajectoire. Je ne peux pas répondre là en deux secondes, mais si vous voulez, je peux vous montrer les principales pistes qui me semblent impératif de proposer à nos sociétés aujourd'hui.
En bibliographie. Post-dossier.
Voilà. Nous, on a commencé à publier des livres qui proposent des bifurcations, justement, dans ces trajectoires, notamment, par exemple, dans l'économie de la précroissance, on parle d'économie biophysique, donc de mobiliser des écologues pour redéfinir des bassins de vie. Pour redimensionner les activités à l'échelle de biorégions, par exemple, ce serait une autre démarche. De développer une forme de re-territorialisation, d'instaurer un revenu de base. Maintenant, cette proposition, c'est lui-même Benoît Hamon qui l'a reprise. Pour ralentir le rythme de la production, parce que si on gagne un revenu inconditionnel, on sera moins obligé de produire des biens et services, et du coup l'économie ralentira, mais positivement, parce que en fait l'idée c'est de faire ralentir le système, ralentir de toutes les manières possibles et relocaliser. C'est pas très glamour. Mais par rapport aux matériaux dont vous parlez, par exemple, en Ile-de-France, il y a un début de filière de matériaux biosourcés, par exemple. Enfin, je ne sais pas, est-ce qu'il n'y a pas moyen, dans chaque région ou biorégion, d'essayer de mettre en valeur ce genre de choses?
Je vais juste mentionner à ce petit incise, lié au village olympique, nous on mène une étude actuellement, enfin on va mener une étude pour le compte de ce futur village. Est-ce qu'on pourrait faire une place de marché qui mette en relation, tu peux entendre connaître ça, les gens qui déconstruisent, donc les déchets du bâtiment, et les constructeurs. Et c'est un jeu interfaciel qui, ça se trouve, pour des coûts modérés, il faut gérer, hein, mais une forme d'économie circulaire, mais à travers un outil très moderne de place de marché, où comme sur Airbnb, vous dites, j'ai 250 000 fenêtres disponibles, c'est des panneaux de telle taille, qui seront à tel endroit, à telle heure, au moment de la déconstruction, si ça intéresse quelqu'un, pour tel prix. Place de marché à créer. Ah zut, ça marche pas. L'effondrement technologique à la fin des dépôts, mais la lumière ne s'éteint pas.
Bonjour, Michel Garcia, de la préfecture des Yvelines. Votre intervention, votre démonstration de ce matin fort intéressante, m'ouvre au moins d'autres questionnements. Est-ce qu'en fait, la période anthropocène n'est-elle pas la conséquence de l'histoire? Est-ce que l'approche, est-ce que la forme de catastrophe n'est-elle pas la conséquence d'un chaos? je ne peux m'empêcher de mettre en similitude 45 et la fin de la Seconde Guerre mondiale. Alors même que 30 ans avant, il y a eu une autre guerre mondiale, il n'y a pas eu d'effet anthropocène. Est-ce que cette réflexion a été menée? Est-ce une conséquence directe ou pas de ce chaos qui précède donc une période de catastrophe anthropocène?
Vous parlez du chaos de la Deuxième Guerre mondiale, en l'occurrence. Ouais. Oui, en partie, oui. Le largage des deux bombes atomiques au Japon et le moment d'entrée en scène de la grande accélération, en fait. C'est comme ça que certains chercheurs, comme Jacques Greenwald, qui fait partie du groupe de travail sur l'anthropocène, dont je vous ai montré la liste des scientifiques, parmi eux, il y a Jacques Greenwald, et Jacques Greenwald, qui est historien, dit... Ah, l'explosion des deux bombes atomiques d'Hiroshima et Nagasaki, précédée des essais nucléaires du Nevada, c'est là que l'anthropocène a commencé. Parce qu'on a changé d'échelle. On a changé d'échelle dans la puissance d'intervention et de destruction. Donc effectivement, il y a un lien entre la deuxième guerre, la guerre, vous avez raison, et l'anthropocène. Et certains historiens comme Bonneuil et Fressos parlent de thanatocène. C'est l'industrie de la mort, c'est aussi l'industrie de la vie. Les nitrates des bombes de la Première Guerre mondiale, il y avait du nitrogène dedans, servent ensuite à la chimie de la révolution verte agricole. Et la bombe atomique aujourd'hui, ben c'est Atom for Peace, l'atome pour la paix. C'est l'Agence internationale de l'énergie atomique, basée à Vienne en Autriche, qui se charge de pacifier l'usage de l'atome. Et nos industries nucléaires résultent de ces inventions guerrières. Vous avez complètement raison de faire cette remarque.
Question ici. Allez-y.
Pardon. Alors, ce n'est pas une question, c'est plus une réaction. Tu disais que les solutions alternatives n'étaient pas forcément de l'amour. Je ne suis pas tout à fait d'accord. Enfin, je pense que... Enfin, on a par exemple une expérience en Normandie, du côté du Béquelois, une expérience de permaculture qui montre qu'on arrive à sortir environ 50 000 euros de revenus annuels sur un hectare et demi. Il faut aller 80 hectares de blé en culture soi-disant intensive pour obtenir à peu près le même revenu. Donc voilà, je pense qu'il y a des solutions qui peuvent être tout à fait enthousiasmantes. Et j'allais dire, sans faire de publicité, ceux qui n'ont pas vu le film Demain, je le conseille fortement, parce que ça montre quelques solutions qui ont été, c'est pas l'alpha et l'oméga, hein, mais des solutions qui ont été mises en œuvre à différentes échelles, que ce soit le petit village de 5000 habitants, la ville de San Francisco ou de Los Angeles, je ne sais plus laquelle, un pays, etc. Enfin voilà, à différentes échelles où on montre des choses qui marchent.
Tout à fait. Et je voulais dire, dans pas glamour, je voulais dire pas hyper technologique, c'est ça que je voulais dire. C'est très, très beau, cette ferme du Béquelois, elle est splendide. Tout à fait.
Votre intervention, oui, pardon, Frédéric Moulin, Gertegaz. Votre intervention, moi, m'amène deux réflexions, en fait. Finalement, deux contradictions qu'il faut essayer de prendre en compte. La première, c'est la question de la temporalité. C'est vrai, quand on parle de géologie, on parle toujours du temps long. Moi, j'ai le souvenir, quand j'étais petit, effectivement, quand on apprenait ça, on avait toujours l'idée du temps long, et vous parlez d'accélération. Donc, on a une première contradiction à résoudre entre le temps long de la géologie qui s'accélère et le temps très court de l'action humaine. Donc, ça, c'est une des premières difficultés. Et puis, la deuxième, c'est aussi un effet, je dirais, de massification, quoi. La géologie, c'est aussi un phénomène, on va dire, d'ampleur planétaire et qu'on peut envisager de résoudre par de la micro-action humaine très locale. Et je trouve que ces deux contradictions sont difficiles à appréhender.
Remarque plus que question. Oui. Il y a autre remarque, question.
Xavier Auclair, EDF. Sur les 12 graphes, vous les mettez tous au même niveau. Alors quand on regarde, quand on regarde, on voit qu'ils ressemblent tous au premier, qui est la croissance de la population mondiale. Si on divisait l'ensemble des croissances par la croissance de la population mondiale, est-ce qu'on arriverait à déterminer les facteurs d'impact plus importants? Et du coup, au lieu de regarder les symptômes, on identifierait des causes qui pourraient peut-être être susceptibles d'être traitées par des politiques malthusiennes. Est-ce que c'est une solution ?
C'est vrai que la démographie, c'est un peu un non-dit, et ben, je me dévoue pour parler de ce tabou, mais aujourd'hui, il y a toute une sorte de politiquement correcte sur la question de la démographie. En général, dès que quelqu'un l'aborde, il est traité de malthusien, qui apparaît comme une insulte. Mais si on pense les uns et les autres, pour la génération des Quadra Quinca, c'était 2 milliards et demi comme sommes-nés. On est 7 milliards, quasiment 7 milliards et demi. Ça ne peut pas ne pas être un facteur déterminant. Et comme je vous le disais dans ce livre collector, les différents scénarios qui étaient abordés à l'époque, avec un facteur, comme variable principale, comment ça va se passer sur la démographie, évidemment.
Bien sûr. Oui, en même temps, il faut tenir compte d'une chose, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de gens qui se disent que finalement, par exemple, Claude Lévi-Strauss, à la fin de sa vie, disait cela, si on n'était que 500 millions sur la Terre, on pourrait tous vivre dans le gaspillage comme les Américains, et ça n'aurait pas de conséquences. Sauf qu'il faut voir que le capitalisme, à un certain moment donné, pour pouvoir fonctionner, a besoin toujours d'une dynamique de croissance. Pour ça, il a toujours besoin d'étendre ses marchés, et donc il a absolument besoin d'une croissance démographique aussi. Et donc, en fait, croire que, par exemple, les Américains pourraient vivre comme ils vivent, avec personne d'autre sur la Terre, par exemple, mais en fait, c'est faux. Parce qu'ils ont besoin aussi, c'est ce qu'avait très bien décrit Hayek, en fait, je disais que le système ne pouvait fonctionner que parce que, précisément, il y avait toujours des nouvelles populations qui apparaissaient, qui passaient du non-être à un être très précaire, et puis ensuite qui avaient pour ambition d'augmenter leur niveau de vie, mais pour que le niveau de vie des gens pauvres puisse augmenter, il faut qu'il y ait des nouvelles populations qui sortent sans cesse du non-être pour arriver à l'être. Et donc, en fait, l'idée, si vous voulez, qu'on pourrait résoudre tous nos problèmes juste par la question démographique est fausse, dans la mesure où, en fait, la croissance démographique est absolument solidaire de toutes les dynamiques économiques que l'on connaît.